23h à Mamoudzou, 21h à Paris, 20h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Alban Le Prince.
Et à la une de ce journal, Emmanuel Macron à Mayotte jusqu'à demain, 5 jours après le passage du cyclone Chido, dont le bilan très provisoire fait toujours état de 31 morts. Le chef de l'État a multiplié les annonces et les rencontres avec les habitants. Les détails dans un instant. De son côté, François Bayrou tente encore de former son gouvernement. Il a reçu aujourd'hui tous les partis, sauf le Rassemblement National et la France Insoumise, et leur propose d'y participer. Il était l'invité de France 2 ce soir. Au sommaire, également la fin d'un procès historique, celui des viols de Mazan. Dominique Pellicot, condamné à 20 ans de prison, ses 50 co-accusés tous reconnus coupables. Son ex-femme Gisèle Pellicot, droguée et violée, s'est exprimée à l'annonce du verdict. Nous l'entendrons. Et puis alors que la tension monte entre Israël et les Houthis du Yémen, que les frappes se multiplient, cette question, quelles sont les capacités militaires de ce groupe de rebelles ? Élément de réponse dans ce journal. Une journée de deuil national en France le 23 décembre, annonce aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui a promis de rebâtir le 101e département français défiguré par le cyclone Chido il y a 5 jours. Une loi spéciale et un renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine face à l'ampleur des dégâts. Le président est arrivé ce matin à Mayotte et y restera finalement jusqu'à demain pour rencontrer notamment les victimes de cette catastrophe qui a fait au moins 31 morts, un bilan encore sous-estimé, des habitants qui, pour certains, ont laissé éclater leur colère. Nicolas Feldman et Jadel Khoury, envoyés spéciaux de RFI à Mayotte, ont passé la journée avec eux.
Eh bien, avec Jadel Khoury, nous avons passé effectivement la journée auprès des habitants. Et donc, comme beaucoup d'eux, coupés de toute communication, cette visite du président, elle n'est donc même pas arrivée aux oreilles d'une partie des personnes que nous avons rencontrées. Cependant, quand on parle ici de la présence d'Emmanuel Macron sur l'archipel, certains à Mamoudzou nous font part de leurs attentes, non pas pour reconstruire, ça ce sera pour l'étape d'après, mais avant tout pour répondre aux besoins d'urgence, car un peu partout, ce sont toujours ces mêmes paysages dévastés, ravagés par la puissance du cyclone. La population manque toujours de tout, d'eau, d'électricité, à tel point que certains nous ont même fait part de leur sentiment d'abandon, voire de leur colère vis-à-vis de la France sur cette aide qui tarde à arriver, un ressenti symbolisé aujourd'hui à travers une scène, alors que le président survolait Mayotte en hélicoptère pour constater l'étendue des dégâts. Emmanuel Macron a été hué par des habitants qui patientaient sur l'une de ces longues files d'attente formées aux abords des stations-service.
Nicolas Feldman et Jadel Khoury, envoyés spéciaux de RFI à Mayotte, et toutes les communes devraient être approvisionnées en eau et en nourriture d'ici dimanche soir, d'après Emmanuel Macron. Notez aussi que les assurances prendront en charge 650 à 800 millions d'euros de dégâts. La Fondation de France a, quant à elle, déjà réussi à récolter 14 millions d'euros. Plus de 1000 réservistes de la santé, infirmiers, soignants, ingénieurs, se sont de leur côté déclaré volontaire pour partir à Mayotte, d'après le directeur général de la Santé aujourd'hui. Pendant ce temps-là, François Bayrou a une nouvelle fois reçu les partis politiques aujourd'hui à Matignon. Tous étaient conviés, sauf le Rassemblement National et la France Insoumise, et tous ont été invités à entrer dans son gouvernement qu'il espère nommer ce week-end, ou en tout cas avant Noël. Mais la gauche refuse. François Bayrou, invité de France 2 ce soir pour faire un point d'étape sur les négociations.
Les autres forces politiques, depuis le Parti communiste jusqu'à la droite de gouvernement républicaine, je leur dis, nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne sommes pas ensemble. On voit les conséquences de la division, l'obstacle est immense, j'ai dit un Himalaya, et c'est exactement ce que je pense. Tous les prévisionnistes, tout le monde dit, mais vous n'y arriverez pas. Tout le monde spécule sur le chaos. Moi je dis, on doit essayer. Et je crois qu'on peut y arriver. Et je crois que le chemin existe. Alors c'est peut-être un optimisme délirant. C'est peut-être quelqu'un qui ne voit pas la réalité. Mais je vous dis avec certitude, si on ne réussit pas dans cet essai, alors c'est la dernière station avant la falaise.
François Bayrou qui dit aussi souhaiter que Bruno Retailleau reste au sein du gouvernement. Le combat de Gisèle Pellicot nous oblige tous et doit être poursuivi. Le message posté aujourd'hui sur X par le Premier ministre à la clôture du procès des viols de Mazan, Dominique Pellicot est coupé de la peine maximale. 20 ans pour avoir drogué sa femme et avoir recruté des hommes sur Internet pour la violer. 50 hommes, tous reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison. Un verdict plus clément que ce que réclamait l'accusation, mais à la sortie du tribunal, Gisèle Pellicot a dit le respecter.
C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat. Je pense enfin aux victimes non reconnues dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Des propos recueillis par Bertrand Eclair, Dominique Pellicot, qui pourrait faire appel, n'en a pas fini avec la justice. Mis en examen par le pôle Cold Case, il pourrait être jugé pour une tentative de viol en 1999 en Seine-et-Marne, mais aussi pour le viol suivi du meurtre d'une jeune femme de 23 ans, 1991 à Paris. Pour la première fois depuis la chute de Bachar al-Assad, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Damas, en Syrie, pour la démocratie et les droits des femmes. De son côté, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a dit aujourd'hui voir une lueur d'espoir dans le pays, lueur qui ne doit pas s'éteindre. Toujours au Proche-Orient, mais cette fois à Gaza, Human Rights Watch dénonce des actes de génocide. Médecins sans frontières parle de nettoyage ethnique, accusation dans 2 rapports publiés récemment et rejetés par l'armée israélienne. Israël qui a mené aujourd'hui des frappes au Yémen alors que les Houthis ont revendiqué plutôt le tir de 2 missiles sur l'État hébreu. En réaction, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a prévenu celui qui frappe, Israël paiera un prix très fort. Les Houthis qui contrôlent la partie la plus peuplée du Yémen et déstabilisent le trafic en mer Rouge. Mais alors, quelles sont leurs capacités militaires ? Élément de réponse avec Nicolas Roca.
D'une rébellion à une puissante organisation militaire. Les mots du dernier rapport d'experts de l'ONU attestent du développement des Houthis. Et selon l'analyste Hasni Abidi, directeur du centre d'études sur le monde arabe et méditerranéen, les raids israéliens sont loin d'être suffisants pour les déstabiliser.
Ce sont des frappes importantes, mais elles sont loin de constituer une menace directe sur la capacité militaire et la nuisance des Houthis. Et je pense que les Houthis vont se renforcer avec ces frappes, en mobilisant plus de monde et probablement aussi en exhibant une autre partie de leur arsenal militaire.
La guerre à Gaza, les frappes israéliennes sur des civils au Yémen sont autant d'arguments utilisés par les Houthis pour recruter de nouveaux combattants, des hommes qui viennent renforcer un arsenal diversifié.
Les Houthis ont développé une capacité militaire, un savoir-faire aussi en matière surtout de drones et de missiles, mais il faut rappeler que les Houthis finalement sont les héritiers, en quelque sorte légitime de l'ancien gouvernement, c'est-à-dire que les Houthis ont repris à la fois les structures militaires, hormis celles de Sud, laissées par l'ancien président Ali Abdullah Saleh.
Ces moyens permettent aux Houthis de perturber le trafic maritime en mer Rouge. En revanche, pour continuer les frappes sur Israël, ils dépendent des livraisons de missiles à longue portée de Téhéran.
Nicolas Roca notait aussi que le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui la mort de 6 personnes tuées au cours d'opérations militaires israéliennes dans les camps de réfugiés de Tul Karem et Balata en Cisjordanie occupée. Et puis il était l'invité exceptionnel d'Afrique Soir tout à l'heure sur RFI. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, répondait aux questions de Christophe Boisbouvier et il est notamment revenu sur son coup de colère contre le sélectionneur belge que le ministre camerounais des Sports lui avait imposé et 6 mois après il se veut conseiller.
Vous êtes conscient que le jeune monsieur que je suis, je ne peux pas être celui qui ne respecte pas la volonté du chef de l'État. Donc, si mon aîné, monsieur le ministre des Sports, prend une position que nous, à la Fédération, nous estimons qu'elle n'est pas dans la légalité, bien sûr que nous faisons savoir au ministre notre point de vue. Pourquoi ? Parce que il faut qu'on apprenne à respecter ce qui est juste, il faut qu'on apprenne à respecter les écrits, la loi, parce que les gens ne se rendent pas compte.
Un entretien avec Samuel Eto'o au micro de Christophe Boisbouvier à retrouver en longueur et en intégralité sur RFI.fr et l'application RFI Pure Radio. Il est 21h09 à Paris, 20h09 en temps universel. On se retrouve dans 1 heure pour un prochain journal.